Réjouissons-nous, il est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité. Il y a 10 jours, vous avez suivi cette affaire comme moi, et vous savez comme j'aime bien me rattacher à l'actualité pour inclure notre foi dans notre quotidien, vous avez été évidemment au courant de cette prise d'otage dans le Super U de Trèbes, avec la mort de plusieurs personnes, dont ce lieutenant-colonel qui est devenu le héros français dont toute la presse a parlé, à juste titre d'ailleurs. Et je voudrais commencer ma prédication par la lecture de quelques lignes du Figaro, il y a quelques jours, à ce propos-là. Le visage de l'héroïsme. Le vendredi 23 mars, le lieutenant-colonel Beltrame tombait sous les balles de Radouan Lagtim, depuis les soldats assassinés, etc. Un point cependant différencie Arnaud Beltrame des autres victimes, c'est volontairement que cet officier de gendarmerie s'est porté au-devant de l'assassin pour se substituer à une femme prise en otage. Un geste magnifique qu'on croyait réservé aux temps anciens, il évoque celui de Maximilien Kolbe, ce prêtre polonais ayant pris à Auschwitz la place d'un déporté condamné à mort par les nazis. Ses proches l'ont confié, l'officier était chrétien. Vendredi, à l'instar du père Hamel, un autre père qui s'était fait assassiner, il a voulu être digne du Christ, de sa passion et de son admirable message, le plus puissant, le plus révolutionnaire qui soit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le soldat s'est fait serviteur. Quelle leçon pour une époque qui se montre volontiers individualiste, où les rapports humains semblent désormais placés sous le signe de l'intérêt ou simplement du contractuel, où les comportements de tant de vedettes éphémères, dont Neymar, appellent rétribution faramineuse et gloriole superficielle. Comme préservé de l'air du temps, Arnaud Beltrame a voulu aller au bout de sa mission et, dédaigneux de sa vie, a accepté de l'offrir pour autrui, pour son pays, pour chacun d'entre nous. À une entreprise de haine, lâche et désespérée, il a opposé le visage serein et résolu de l'héroïsme. Voilà la version officielle, à laquelle on peut souscrire sur beaucoup de points, du comportement extrêmement courageux de cet homme. Donc, la notion de héros, à notre époque, apparaît liée au don suprême de soi, comme ça vient d'expliquer, donner sa vie pour les autres. Dans ce cas précis, ce don, encore une fois, magnifique, était incapable de faire pareil, a sauvé une personne, l'otage. Et c'est déjà extraordinaire. Pareil pour le prêtre polonais dont on a parlé à Auschwitz, il a sauvé ce père de famille, dont il a pris la place. C'est admirable, bravo. Encore une fois, je ne reviens pas là-dessus. Et je ne diminue pas la portée de cet acte héroïque. Mais c'est à l'image de notre condition humaine, de nos moyens. C'est totalement dérisoire. Car cet otage sauvé a pu rentrer chez elle, cette femme, famille, dans 50 ans, dans 60 ans, elle sera morte à son tour. Alors, est-ce que ce qu'a fait ce lieutenant-colonel est un coup pour rien? On peut se poser la question. Nous sommes des petites fourmis qui nous débattons entre nous, qui essayons de survivre, qui nous déchirons souvent. Et parce que s'il a fallu un héros dans cette situation, c'est qu'il a fallu, excusez-moi du mot, un salaud. Et ce qui était aussi un être humain, comme nous, comme lui, comme celui qui l'a tué. Et quand on voit ça sous cet angle-là, on se rend compte que tout cela est extrêmement triste, très triste, pathétique, sur ce que ça dit de nous-mêmes, de notre condition, de notre manière de vivre, de nos rapports humains. Alors tout ça est rattrapé, il y a eu aux Invalides une cérémonie magnifique, évidemment, pour mettre en exergue la valeur de cet homme-là. Donc on crée des défilés, on fait des beaux discours, on met de l'apparat, on met du rituel pour essayer de valoriser ce qui est beau en l'être humain et évidemment oublier ce qui est moins beau. Là, il s'agissait du preneur d'otages. À Pégomas, j'ai appris ça ce matin, il y avoir une rue Arnaud Beltrame. Très bien. C'est bien, peut-être d'autres endroits. Et puis, le temps va passer, fin de l'histoire. Il y aura un nom sur une plaque, puis peu à peu l'oubli dans la moulinette du temps. J'étais il y a un mois, et c'est pour ça que j'étais pas là, à l'enterrement de mon beau-frère à Paris. Et on m'avait demandé, je sais pas si vous l'avez raconté, de prendre la parole, parce que les gens disaient, mais toi, tu crois en quelque chose, t'es chrétien. Nous, on est tous chrétiens, mais on n'y est pas, quoi. C'est, voilà, mais toi, vas-y, dis-nous quelque chose qui va pouvoir nous faire du bien. D'accord, mais bon. Même le prêtre, qui était très sympathique, m'a dit, oui, il paraît que vous êtes pasteur protestant. Non, je suis pas pasteur protestant, mais ça y est, dans ma famille, je dis, non, monsieur, je ne suis rien. Moi, je suis dans une petite église, chacun fait selon la mesure de ses moyens. Je suis, allez-y. Bon, d'accord. Donc, devant 400 personnes qui étaient un peu triées sur le volet, parce que c'était à Paris, il y avait une bourgeoisie qui était présente, j'ai pris la parole. Et j'ai pu que dire, je vais évidemment pas vous lire tout ce que j'ai dit qui n'a d'intérêt que pour ma famille, je disais simplement, je reprenais cette idée du temps qui passe, et des jeunes qui deviennent moins jeunes et qui meurent, et puis ça continue et ça reprend, et tout le monde a tendance à oublier cette grande lessiveuse, et je disais que, en tout cas, ma part de vérité à moi, c'était pas le hasard ou la nécessité, je lui avais donné le nom de Dieu, et je pouvais la résumer simplement dans ce verset de l'Ecclésiaste, « Dieu fait toutes choses belles en son temps, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » J'étais extrêmement bouleversé par le nombre de personnes qui sont venues voir à la fin. Des dizaines de personnes, dont certaines voulaient que j'écrive leur oraison funèbre, c'est vous dire dans quel état ils étaient. Ça, c'était pour mon ego, mais j'ai des réservations, mais voilà. Appelez-moi Bossuet maintenant, non, rien à voir. Blague à part, des dizaines, vingtaines, trente, cinquante, soixante personnes qui m'ont demandé que je leur envoie le texte de ce que j'avais dit. Je n'ai rien dit. Si, vous avez dit des choses qu'on ressent, mais auxquelles on ne pense pas, et quand on y pense, on les met sous le boisseau parce qu'elles nous font peur, et vous, en deux pages, vous avez dit ce qui est et vous avez donné une espérance. Et cette espérance, en ce jour de tristesse, elle nous a fait un bien fou. Bon, j'ai dit ok, très bien. Donc, j'ai fait parvenir par internet à ceux qui le demandaient. Mais tout ça pour dire que, au fond de nous, cette conscience de l'éternité que nous avons, comme j'ai dit dans le livre de l'Ecclésiaste, elle est confrontée à cette peur de la finitude, cette peur de la mort. Et quand par hasard il y a un héros qui se lève, on va faire de ce héros quelqu'un d'immortel. C'est ce qui se passait dans l'Antiquité. Les héros, c'était des demi-dieux qui avaient un pouvoir de faire le bien et en même temps qui, par ce bien-là, même s'ils étaient humains, montaient au statut de demi-dieux pour acquérir l'immortalité. Donc, le héros d'aujourd'hui n'est pas un demi-dieu. Il est mort, il ne reviendra pas. Et le bien qu'il a fait à la personne lui a simplement fait gagner le gain d'une dizaine d'années. Donc dans cet article, il manque une dimension. Il s'arrête à la mort du héros, mais moi je voudrais vous parler d'un autre héros, qui lui est allé plus loin. Et pour ce faire, j'ai hésité, mais c'est comme ça que c'est venu, donc je me suis dit qu'il fallait que j'ose le faire. Et l'introduction de Tar me pousse dans cette direction-là, quand il a parlé du rap et de la parabole par rapport au plus gros transfert du monde, eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas une légende, même si, a priori, vu comme je vais vous raconter, ça va vous paraître un peu bizarre. Donc, je vais vous parler d'un autre héros qui s'est révélé, lui aussi, à l'occasion d'une très ancienne prise d'otage. Voilà. Alors, cette prise d'otage ne s'est pas passée au super-U de Trèbes, mais dans un super-U qui s'appelle Super-Terre. Il y a très très longtemps, c'est un supermarché, lorsqu'il l'a ouvert et pour longtemps, on trouvait tout à profusion. Eau, nourriture, matériel pour le quotidien, ressources pour l'énergie. Alors c'est un magasin qui au début a eu des débuts timides, mais dont le succès depuis ne s'est jamais démenti. Alors, des quelques clients naturistes de l'ouverture, on est passé à des milliards de visiteurs, ou depuis plusieurs milliers ou millions d'années, ça, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, parce que je vous dis que c'est une très vieille histoire, et on n'a pas gardé la date exacte d'ouverture de notre magasin Super Terre. Alors, le créateur de la marque, c'était un certain monsieur Yehova, un entrepreneur universel très actif, qui, dès le début, parce que c'est un homme qui faisait beaucoup de choses et qui voulait que la confiance règne dans ses affaires, avait confié les clés du magasin à un jeune couple de gérants, on a retrouvé les noms Adam et Ève. Et le problème, c'est que très rapidement, ce couple de gérants a un peu piqué dans la caisse, a trafiqué les comptes dès le premier bilan. Alors, on parle d'une histoire de trafic de pommes non déclarée. Enfin, ça, c'est pas très très clair encore. Enfin, du coup, le souci, c'est que la confiance entre le propriétaire et les deux gérants a été rompue. Et du coup, l'approvisionnement quotidien du supermarché a été plus difficile, avec des conditions de vie beaucoup plus pénibles. Et évidemment, ça a créé des tensions entre le propriétaire, Monsieur Yehova, qui a dû faire et ses deux gérants, Adam et Ève, et toute sa famille qui a pris la suite, qui donc Monsieur Yehova a dû faire face à une rébellion du personnel et qui était menée par un syndicaliste qui est venu se mêler à ça, un certain Monsieur Satan, qui était tout de suite très véhément et vindicatif quant à la tenue du supermarché. Alors cela a abouti à une forme d'autogestion du stock qui s'est transmis de génération en génération. Le problème, c'est que ça a laissé à Monsieur Yehova que la propriété des murs, mais l'impossibilité de toucher les bénéfices de son investissement initial. Alors, parfois, évidemment, un bon propriétaire, il envoyait des contrôleurs pour faire des audits, un peu, essayer de restructurer par un nouveau management, mais les gérants ne les écoutaient qu'un temps, et puis ils reprenaient vite leurs mauvaises habitudes de fonctionnement. Alors, qu'un cas, Superterre a continué d'être exploité malgré des grèves pour augmentation et demander l'augmentation de la durée de la vie, les vols à l'étalage, des pillages de ressources, des batailles rangées à l'intérieur des rayons, et j'en passe. Et alors, de temps en temps, Monsieur Yehova essayait d'aller un peu plus loin. Donc, une fois, il a même essayé d'une tentative de restructuration interne. Il a envoyé un grand spécialiste de la législation des magasins, un certain monsieur Moïse, et qui était aussi vendeur d'alliances. Mais malheureusement, le noyautage de l'entreprise par les délégués syndicaux de la centrale de monsieur Satan a toujours fait capoter plus ou moins l'affaire. Donc, en désespoir de cause, monsieur Yehova, qui tenait à son magasin, qui tenait à son superterre, dans lequel il avait investi beaucoup, beaucoup de lui-même, s'est résolu à envoyer, mais alors de façon très discrète, très anonyme, parce qu'il sentait bien que les vigiles à l'entrée étaient très très présents. Il a envoyé son propre fils, Yehova Junior, donc sous le pseudonyme de Jésus, pour que ça passe inaperçu. Donc, alors il avait d'abord dans la succursale de Nazareth pour essayer de savoir ce qui pouvait être encore sauvé. Alors afin de ne pas être connu et de pouvoir comprendre de l'intérieur la vie réelle des employés, comme dans l'émission de télé-réalité, je prends la place du patron, vous connaissez, le jeune Jésus s'est fait embaucher au bas de la pyramide de l'entreprise. Et pendant 30 ans, il s'est spécialisé finalement dans l'antenne bricolage et charpente, et, ce qui lui a permis de vraiment connaître tout le mode d'emploi, le fonctionnement de Superterre. Et après 30 ans de bons et loyaux services, il s'est fait remarquer une première fois en transformant en un temps record le rayon des eaux minérales en rayon des vins haut de gamme. Alors, s'en est suivi une succession de faits d'armes étonnants, dont la mémoire de l'entreprise se souvient encore, et qui ont beaucoup marqué la clientèle. Alors, distribution gratuite et illimitée au rayon boulangerie et poissonnerie, ouverture du rayon ski nautique sur le lac de Tibériade, amélioration spectaculaire des rayons parapharmacie avec l'apparition de médicaments très efficaces contre la lèpre, la paraplégie, la cécité, la perte de sang, etc. Et après 3 années à ce rythme, Jésus a été évidemment repéré par la direction générale qui ne pouvait admettre ces nouvelles méthodes de vente à perte qui influaient négativement sur le chiffre d'affaires. Il a donc été convoqué au siège central, qui à l'époque se trouvait à Jérusalem, avec son équipe de jeunes vendeurs qu'il avait formés à ces méthodes révolutionnaires. Alors, après un simulacre de jugement au prud'homme, il a été licencié à vie de Superterre. C'est alors, et si je vous dis que je vous ai parlé d'un héros, c'est alors que eut lieu son action héroïque. Un vendredi, Guy de de la semaine de Pâques. On appelle ça comme ça parce qu'il faut savoir que dans les supermarchés, les deux plus grands jours où on vend, c'est Noël et Pâques. Donc au moins, ça sert à ça. Satan, Monsieur Satan lui-même, donc aussi connu sous le nom de Monsieur Belzébuth, a soudain révélé son vrai visage et pris d'une crise d'autorité forte, il a pris en otage tout le supermarché officiellement. Avec un arsenal d'armes terrifiantes, alors, le mensonge, l'égoïsme, le meurtre, le viol, la maladie, là il a mis le paquet et milliards de clients ont été tétanisés et pris en otage. Alors, oubliant le fait qu'il venait d'être licencié de Superterre, ce qui lui donnait le droit de se désintéresser du sort de ses employés et de rejoindre son père, eh ben, le jeune Jésus s'est proposé de prendre la place des milliards d'otages retenus dans le magasin. Alors, le preneur d'otages a accepté la transaction, trop content de tenir enfin au bout de ses vices celui qu'il avait nargué pendant des années avec ses méthodes de vente révolutionnaires. L'échange eut lieu. Le jeune Jésus prit la place des milliards d'employés qui purent sortir du magasin, et il se retrouve face à face avec Monsieur Satan. Mais malgré ses promesses de discussion, de vie sauve, voire d'amendement, Monsieur Satan, évidemment, a assassiné lâchement le jeune Jésus avec des palettes qui traînaient dans la réserve et auxquelles il l'a cloué. Mal lui en a pris. Car le dimanche suivant ce crime horrible, on pense que c'est 3 jours après, d'après les documents qu'on a retrouvés, Jésus sortait vivant de la chambre froide où l'avaient placé les membres de son équipe éplorés après sa mort. Et il apparut ensuite à plusieurs clients, sur le parking d'Emmaüs par exemple, ou au rayon meubles et jardins, près de la chambre haute. Depuis ce jour incroyable, il a ouvert une caisse fantôme, visible seulement par ceux qui croient en son mode de management qui se résume en un mot, non pas le client est roi, mais le client est fils de roi. À cette caisse, nul fil d'attente, nul code barre, nulle carte bleue, on passe ses achats gratuitement et on reçoit une carte de fidélité valable pour l'éternité. Monsieur Satan, furieux de s'être fait ainsi berner, depuis cherche partout cette caisse gratuite, s'arrêter par ses vigiles de sécurité, toutes celles et ceux qui se promènent dans Superterre avec un caddie rempli de produits de contrebande, évidemment, comme la joie, la gentillesse, l'altruisme, la fraternité, l'amour. Mais il est trop tard. On murmure même que de nouvelles caisses gratuites s'ouvrent un peu partout, que rien ne peut contenir le flot des nouveaux clients qui s'y pressent, enfin libérés de leurs listes d'achats obligatoires. Le tout sous l'œil bienveillant et satisfait de Monsieur Yehova. Oui, je vous le dis, réjouissons-nous, il est vraiment ressuscité.